Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte assez unique qui s'appelle « La lettre du Père ». C'est présenté, en fait, comme un message direct, très personnel de Dieu, qui utilise des passages de la Bible pour parler à mon enfant.
D'accord.
Notre but, c'est un peu de décortiquer ça, de voir les idées clés sur l'amour divin, la création, la relation proposée. Alors, allons-y.
Oui. Dès le début, le texte parle d'une connaissance avant même notre conception. Il cite Jérémie « Je te connaissais avant que tu sois formé ». Ça met une ambiance très intime, non ?
Ah oui, tout à fait. Et ça va même plus loin qu'une simple connaissance abstraite. On cite le psaume 139 « C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère ». Tissé, carrément. Oui, c'est une image de création très personnelle, presque artisanale. Et ce qui est vraiment frappant, c'est comment cette intimité est liée directement à notre valeur. On lit « Tu as été créé à mon image ».
Tiré de la Genèse. Et puis « Tu es une créature si merveilleuse » du psaume 139 encore. Il y a cette insistance forte sur « tu n'es pas une erreur ».
Oui, ça marque. Comme pour contrer une idée de hasard, ou peut-être un sentiment d'illégitimité.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de fonder une valeur intrinsèque. Et cette idée d'être tissé, ça suggère une attention incroyable, presque. Le texte continue d'ailleurs sur cette connaissance totale. Encore le psaume 139 « je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves ».
Et ça va même jusqu'à citer Matthieu pour dire « Même les cheveux de ta tête sont tous comptés ». Bon, c'est une métaphore pour dire « je te connais par cœur » ou c'est plus littéral.
Ben, c'est sans doute un peu les deux. Mais dans le contexte de cette lettre, ça sert surtout à appuyer l'idée d'une présence constante, d'un intérêt total pour la personne.
D'accord.
Ça prépare le terrain, en fait, pour définir qui est cet auteur. Il se décrit lui-même comme l'expression parfaite de l'amour, une citation de 1 Jean 4.
Ah oui.
Et ça, c'est en contraste direct avec une image qu'on pourrait avoir de Dieu comme distant ou en colère. Une image qui serait, d'après le texte, déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Donc, il y a une volonté de rectifier une perception. Et le texte insiste aussi, il est la source de toute grâce parfaite, ça c'est Jacques 1. Et il pourvoit à tous tes besoins, Matthieu 6. Ça peint vraiment le portrait d'un père bienveillant.
C'est ça. Un père attentionné, et cette bienveillance, elle s'étend aussi aux moments difficiles, à la souffrance. Le texte cite 2 Corinthiens, « Il est le père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. » Et le psaume 34 pour dire qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il y a même cette promesse d'un avenir sans douleur avec Apocalypse 21 qui parle d'essuyer toute larme. L'engagement semble total. « Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. » Ça, c'est Jérémie 39. C'est un engagement puissant. Et puis, il y a ce point central, Jésus. Là, ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Le texte dit que l'amour de Dieu pour nous, l'enfant, est le même que son amour pour Jésus. C'est Jean 17, ça.
Ouais.
Comment on comprend ça? Et cette idée que Jésus serait la représentation exacte de mon être, tirée d'Hébreux.
En fait, ça veut dire que, selon cette perspective, regarder Jésus, c'est voir Dieu. Ses actions, ses paroles, son amour, tout ça révèle le caractère de Dieu.
D'accord.
Jésus est présenté comme la preuve vivante que Dieu est pour toi, pas contre toi. Ça, c'est Romains 8. Son rôle, c'est de montrer cette nature aimante et aussi de rendre la relation possible. Et c'est là qu'arrive la notion clé de...
réconciliation.
La réconciliation, l'idée que quelque chose était cassé et qu'il faut réparer.
Précisément. Le texte s'appuie sur 2 Corinthiens 5 et il affirme que grâce au sacrifice de Jésus, les péchés, disons les fautes, la distance qui nous sépare de Dieu, eh bien ce n'est plus un obstacle définitif. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. La mort de Jésus est vue comme l'acte qui enlève cette séparation, qui permet une relation restaurée. Et cet amour est décrit comme indéfectible. Romains 8 encore, « Rien ne pourra jamais te séparer de mon amour ». Donc, si on récapitule le cheminement, on part d'une création intime, on passe par la révélation en Jésus pour arriver à une réconciliation finale. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour la personne qui reçoit cette lettre?
Mais l'implication, c'est une invitation. Très directe, le texte se termine par cette question inspirée de Jean 1. Ma question est donc celle-ci, veux-tu être mon enfant?
Une offre d'adoption spirituelle, en quelque sorte.
C'est tout à fait ça. Entrer dans cette famille divine, et la référence finale à Luc 15... l'histoire du fils prodigue, elle renforce cette idée d'une attente patiente, aimante. Je t'attends.
Donc pour résumer, on a vraiment une vision très personnelle de Dieu. Un créateur proche, un père aimant, qui console, révélée par Jésus et qui offre cette réconciliation et invite à devenir son enfant.
Exactement.
Les points forts, ce serait cette connaissance intime avant même la naissance, cet amour présenté comme inconditionnel qui passe par-dessus les fautes et cette invitation toujours ouverte.
Tout à fait. C'est une construction théologique qui est très centrée sur l'amour paternel de Dieu. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, personnelle, hein ?
Oui.
Comment cette image d'une paternité divine si parfaite, si omnisciente, toujours aimante, comment est-ce qu'elle résonne face aux expériences humaines de souffrance, ou parfois de sentiments de distance, d'abandon? Le texte, lui, il offre sa réponse, et il signe.
Ton Père qui t'aime, Dieu Tout-Puissant. Une plongée dense, mais riche, dans une vision de foi très affirmée.